Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52. Depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes. En l'occurrence, nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. 2 fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et je suis entourée de mes chères consoeurs bien pensantes. Salut Elsa.
Hello.
Salut Margaïde.
Hello, prête à casser l'ambiance.
Comme toujours, pour changer. Dans ce 31e épisode, nous allons parler de Warriors dans les séries. On le sait, le cinéma, la musique, les arts en général contribuent fortement à façonner nos imaginaires. On a toutes et tous grandi avec plein de super-héros, mais très peu d'héroïnes. On a adoré plein de personnages principaux, mais ils sont toujours blancs. On s'est ému pour des histoires d'amour, mais elles sont tout le temps hétérosexuelles. Bref, tu vois où je veux en venir. Notre imaginaire est biaisé puisqu'il ne permet pas à chacune et chacun de s'identifier, de s'inspirer et de se sentir représenté. Bref, d'avoir une existence visible aux yeux de toutes et de tous. Au-delà du divertissement, c'est un regard sur la société que chaque production propose qui influence notre perception du monde et qui, à force, crée des normes. On adore se reconnaître dans les personnages, et pourtant si tu n'es pas blanche, mince, valide, hétéro, cisgenre, bah c'est beaucoup plus compliqué de trouver des récits et des personnages qui te ressemblent. Alors depuis quelques années, notamment avec l'arrivée des plateformes de streaming, les choses tendent à changer. On voit de plus en plus de productions qui incluent des profils et des histoires plus représentatives. On voit apparaître des séries écrites et produites par et pour des femmes, comme Orange is the New Black, ou des séries qui incluent des personnages trans et vraiment joués par des personnes trans, comme dans Sense8. On voit aussi des séries dont les personnages principaux sont noirs, asiatiques, musulmans ou autistes, malades, handicapés, et c'est une super nouvelle, mais ne nous reposons pas trop vite, la situation n'est pas parfaite, loin de là. Il y a donc encore beaucoup à faire pour que tout le monde ait sa place à l'écran, et nos warriors vont vous le rappeler. Elles vont nous souffler des références, nous émouvoir et nous amuser. Et sans plus tarder, Margaïde, tu nous fais découvrir le premier témoignage.
Oui, alors c'est Sarah qui a le boulot, je crois, le plus cool de la Terre. Elle est chercheuse et son thème d'étude, c'est les séries.
Yes. Trop cool.
Donc elle est prof à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Donc c'est quand même très sérieux. Et elle nous explique pourquoi il ne faut pas prendre les séries à la légère.
Si on demande à des gens ce qu'ils ont fait hier, beaucoup vont répondre qu'ils ont regardé une série télé. Et les séries paraissent anodines, c'est-à-dire qu'on se dit que c'est un truc qu'on fait le soir pour se vider la tête ou comme loisir. On ne prend pas nécessairement conscience que les séries sont en fait un mode d'approche important du monde. Qu'est-ce qui fait que je sais à quoi ressemble New York ? Est-ce que c'est parce que je suis allée à New York ? Est-ce que c'est parce que j'ai regardé des reportages sur New York ? Ou c'est parce que j'ai regardé des films et des séries sur New York ? Je pense que c'est plutôt la troisième réponse, en fait, qui compte. Mais plus globalement, et sur des choses qui sont probablement en plus liées là aussi aux identités et puis à nos vies de tous les jours, comment je sais à quoi ça ressemble un couple ? Comment je sais à quoi ça ressemble une relation sexuelle ? Comment je sais à quoi ça ressemble draguer quelqu'un ? Comment je sais à quoi ça ressemble travailler dans une entreprise, être médecin, être avocat ? Enfin, il y a plein de lieux, plein de situations qu'on ne connaît qu'à travers les séries télévisées ou qu'on teste, parce que je parlais de la drague tout à l'heure. Forcément, je sais à quoi ça ressemble de la drague, j'ai 44 ans. Mais quand j'avais 12 ans, c'est pas certain que j'ai osé demander à mes parents, tiens, comment est-ce qu'on fait pour draguer un garçon ou pour draguer une fille ? Comment je sais à quoi ça ressemble toute cette parade amoureuse / sexuelle ? Les séries sont importantes dans ma construction. J'en ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je fais partie, par exemple, des gens pour qui le Scully Effect a travaillé. Alors, c'est quoi le Scully Effect ? C'est les gens se sont rendus compte qu'il y avait plus de femmes qui osaient aller dans les sciences, les mathématiques, etc., parce qu'elles avaient vu Dana Scully et que Dana Scully était un modèle pour elles. Dana Scully, c'est l'un des personnages principaux de la série Aux frontières du réel, X-Files. Vous voyez cette série d'enquêtes sur le paranormal avec les ovnis où il y a Gillian Anderson et David Duchovny. Et moi, je me souviens très bien qu'elle est sortie au moment où je faisais mes études. Et à partir de cette série, j'ai commencé à accepter de dire que j'étais une intellectuelle. Avant, jamais de ma vie, je ne disais ça. Je trouvais plein d'entourloupes. Mais c'est parce que les intellectuels avant Dana Scully dans les séries, c'était toujours la fille qui était amoureuse du héros, mais dont le héros tombait jamais amoureux d'elle. Souvenez-vous de Beverly Hills, par exemple, il y a Andrea, d'ailleurs les intellectuels, elles font toujours le journal de l'école, mais c'est jamais le love interest de personne. Et donc forcément, je n'avais pas très envie de me reconnaître dans ce personnage d'intellectuel. Sans elle, je ne sais pas très bien si je serais prof d'UNIF. Donc voilà, et je suis très intéressée de voir que le Gina Davis Institute, donc l'institut qui a été monté par Gina Davis, vous voyez cette actrice qui jouait dans Thelma et Louise, dont le but est véritablement d'analyser les représentations avec ce mot d'ordre: si les filles ne se voient pas représentées, et représentées dans des rôles différents, elles ne pourront pas l'être, avec cette idée qu'il faut vraiment des rôles modèles. Et à un moment donné, elle entendait tellement parler de Scully qu'elle s'est dit: nous allons aller vérifier s'il y a vraiment eu un effet Scully. Et elles ont démontré qu'il y a vraiment eu un effet Scully. Donc je trouve que c'est vraiment rendre à Scully ce qui appartient à Scully. Et de montrer à quel point elle a pu favoriser l'inscription des femmes dans le champ des STEM et dans la science en général.
Eh bien, merci beaucoup,
merci.
Sarah.
Trop intéressant.
Pour cette discussion. Alors, on a discuté pendant à peu près 40 minutes avec Sarah. Donc, j'ai tout enregistré. On peut pas tout vous mettre maintenant parce que sinon, on ferait un épisode que sur Sarah. Ce serait un peu dommage.
Mais passionnant.
Mais passionnant. Du coup, je vous prépare un petit bonus qui sortira dans quelques semaines. On a parlé de plein de choses et notamment des représentations queer dans les séries aussi.
Très bien.
Voilà. J'ai hâte de vous montrer ça. Bon, elle dit que, bon, Scully, c'est ce qui l'a beaucoup marqué dans sa vie, dans sa jeunesse. Et vous avez peut-être des séries comme ça qui vous ont marqué quand vous étiez plus jeune, des personnages
Quand j'étais jeune, je regardais absolument pas la télé, j'étais tout le temps dehors, mais je me rappelle qu'il y avait Undo Stress et que je rêvais de rentrer dans une école de danse, théâtre, musique. C'était juste pour le kiff de on peut envisager des carrières artistiques, quoi. Moi, ça m'a inspiré ça.
Oui, j'avoue, Undo Stress, je m'en souviens aussi, je regardais pas mal, mais avant ça, j'ai regardé beaucoup Lois et Clark, Dr. Quinn, femme médecin. Et franchement, je pense que c'est pas ouf, hein, parce que, je veux dire, l'image de Lois Lane tout le temps, l'autre il vient la sauver, elle est tout le temps en mode, oh là là, mais c'est la catastrophe et tout. Enfin, ça me saoule, quoi. Quand j'y pense, en fait, je me rends compte à quel point ça m'a impacté dans ma vision justement du couple, de l'homme qui vient te sauver, etc. Enfin, c'est la catastrophe, quoi. Et Dr. Quinn, bon ben, de toute façon, c'est à l'époque, c'est à l'époque de la conquête de l'Ouest, etc. Aux États-Unis, tout est problématique. Il y a rien qui va. Alors oui, génial, c'est une femme médecin, elle se bat contre tout, nanana, ouais. Mais bon, enfin, ça reste quand même dans un contexte hyper conservateur. Ouais.
Puis son mec, l'Indien blanc.
Ouais, non, ça va pas du tout.
Parlons-en.
Mais clairement, ça m'a marqué, quoi. Mais je sais pas si c'est dans le bon sens, je pense pas.
Ouais. Alors moi, le premier personnage féminin qui m'a vraiment marqué, c'est Alec Guevara de Dark Angel.
Dans un monde en ruine, elle est hantée par son passé. Elle ne peut pas fuir, elle doit se battre. Aller à la rencontre de son destin.
Alors, la série, elle se passe dans un monde apocalyptique à la suite d'un accident nucléaire. C'est une espèce de dictature avec des drones de la police qui surveillent les rues. Voilà, c'est un peu flippant parce qu'on a l'impression d'y être maintenant. Voilà, c'est une série qui est sortie dans les années 2000. Et Max, c'est une jeune femme génétiquement modifiée. Elle a été programmée pour être un soldat, mais quand elle était enfant, elle s'est échappée, en fait, de la base militaire où elle était internée. Et depuis, elle est recherchée et elle tente quand même de mener une vie normale. Alors, elle est super badass. Elle travaille comme livreuse à vélo. Vous savez ma passion pour le vélo. Ça vient peut-être de là. Elle a des tas d'amis Jenny et sa passion c'est la moto. La nuit elle sort à moto pour voilà dans les rues genre être trop belle en plus et la nuit pour mettre du beurre dans les épinards elle devient cambrioleuse. Voilà, je la kiffe trop.
Oh yeah.
Et en plus le personnage secondaire de cette série c'est un mec, c'est Logan qui est journaliste d'investigation, qui est paraplégique et qui est amoureux de Max, évidemment. Mais il est souvent coincé chez lui, parce que comme il dénonce les agissements du gouvernement, il est aussi recherché. Et donc, il sort quasiment jamais de chez lui. Donc, c'est Max qui est, en fait, qui va pour lui mener des enquêtes, recueillir des indices. Enfin, c'est elle qui se bat pour lui, quoi. Et du coup, cet inversement, moi, ça m'avait... Je sais que ça m'a beaucoup marqué, ce personnage. Enfin, j'étais à fond. Enfin, je m'identifiais beaucoup, à ce personnage qui, au final, se battait, qui avait une vie en dehors de juste les personnages qu'on nous montrait beaucoup, de petite Candy, là, qui restait un peu enfermée, à attendre prisonnière que le prince que le prince arrive ou que le mec arrive ou que le mec je sais pas leur fasse une déclaration pour se marier, avoir beaucoup d'enfants.
Mais ça a l'air trop cool, moi j'ai jamais entendu parler de cette série, mais du coup je viens de penser qu'il y avait d'autres trucs, il y avait quand même Charmed et Buffy qui étaient pas trop mal on va dire en termes de personnages féminins.
Surtout avec, pour Charmed et Buffy, cette reconquête du milieu de la nuit aussi. Enfin, de l'espace public la nuit, d'aller dans les rues, de combattre les monstres. C'est vrai qu'elles étaient très très fortes.
Badass.
Aussi.
Elle est super badass. Bien, et ben je vais vous présenter la warrior suivante. C'est Marie. Marie, elle a 40 ans. C'est ma bestie de la vie. Si tu nous écoutes attentivement, tu te souviens sûrement d'elle et de son coup de pied chassé, puisqu'elle est la boxeuse qui a témoigné dans l'épisode sur les warriors dans le sport. Elle revient donc pour apporter une nouvelle pierre à l'édifice et elle va nous parler d'une série qui a changé beaucoup de choses, qui est sortie il y a une quinzaine d'années. On l'écoute.
Je voudrais parler de la série The L Word qui est sortie il y a une quinzaine d'années et qui a eu l'effet d'une petite révolution dans l'univers lesbien, enfin en tout cas dans le mien, à cette époque-là. Girls in tight dresses who drag with mustaches. Dans les grandes lignes, c'est l'histoire d'une bande de copines qui vivent à Los Angeles, qui sont toutes canons, qui sont indépendantes, qui ont du fric. Enfin, il y a la sportive, il y a la chef cuistot, il y a la directrice d'un musée, il y a la coiffeuse. Enfin bon, mais surtout, elles sont toutes lesbiennes. Et cette série raconte leur histoire d'amour, leur histoire d'amitié, leur histoire de cul. Et à cette époque, on n'avait juste jamais vu ça. Il y avait eu quelques films, quelques petites séries, mais en souterrain. Mais là, une série américaine avec en actrice principale Jennifer Beals, on n'avait juste jamais vu une série qui mettait à l'honneur des femmes lesbiennes, mais pas que des femmes en plus, parce que c'est une série qui m'a appris beaucoup de choses à cette époque-là, qui parlait de transidentité, de sexe, d'homoparentalité, plein de sujets qui, à cette époque-là, on n'en parlait pas vraiment, puis on n'y connaissait pas grand-chose, même en étant dans ce milieu-là. Pour ça, ça a été vraiment une vraie révolution. Parce que jusque-là, dans l'univers audiovisuel, clairement, la moindre pub, le moindre film, la moindre série, tout est hétéronormé. Il y a peu de possibilités de s'identifier à ce qu'on voyait à la télé ou au cinéma, alors qu'en fait, tout le reste du monde peut s'identifier à la moindre petite publicité ou la moindre série pourrie et s'émoustiller devant, alors que pour moi, c'était beaucoup plus difficile. Alors que là, on pouvait s'identifier clairement et ça a été une vraie libération. On se regroupait tout entre potes d'ailleurs pour mater la série. En plus, il y avait des scènes de sexe qui étaient hyper bien faites parce que ça a été produit par une productrice lesbienne et qui a eu envie en fait de raconter aussi sa vie et son histoire à travers cette série-là. Donc, on pouvait clairement s'identifier. Et ça a été une vraie bouffée d'oxygène. Quand cette série est sortie, on avait dans les soirées des clones de Shane ou de Beth Porter ou de, enfin, qui sont des personnages de cette série-là et c'était super parce que en fait ça a rendu visibles les invisibles comme on nous appelle. Et ça changeait un petit peu de l'unique Josiane Balasco qui, en gros, ne peut se taper qu'une Victoria Abril qui, de toute manière, retournera avec son mari Alain Chabat. Et ça nous donnait juste un peu d'autres options et d'autres perspectives. Et franchement, merci à The L Word. Et d'ailleurs, elle revient. Il y a un second volet qui arrive. Alors, elle est peut-être pas fantastique dans le fond, mais pour nous, c'était fantastique, franchement, à l'époque.
Wouhou!
Merci Marie, merci mon amie pour ton témoignage. Alors bah, s'il fallait encore prouver que la représentation c'est important, avec son récit il n'y a plus trop de doute, hein, et je sais que beaucoup de femmes lesbiennes de notre génération se reconnaîtront aussi. Cette série elle a marqué un véritable tournant et elle donne le ton dès le titre, hein, The L Word, en soulignant la difficulté d'employer le mot lesbien, le mot en L. C'est un sujet dont parle beaucoup Alice Coffin dans son livre Le génie lesbien, que je vous invite très chaleureusement à lire parce qu'il est passionnant.
Pluie de cœur, voilà. Infini.
Ça parle aussi du coup de représentation, l'importance de la représentation dans les équipes, au moment de l'écriture, ouais, de la production, ouais, de la réalisation, quoi, parce que selon le regard qu'on a, bah, évidemment, notre vie influence notre façon d'écrire. Donc c'est très très important d'intégrer, dès le démarrage d'un projet, des personnes au profil très différent pour avoir en tout cas un récit le plus réaliste possible, quoi. Et ça répond aussi... En propos de Marie, quand elle parle de ce terme, les invisibles, je trouve ça terrible. C'est terrible de se retrouver, ouais, nulle part, de devoir se contenter d'un imaginaire super limité et normé qui te correspond pas. Donc on félicite toutes les professionnelles et plus largement les personnes qui bossent dans ce milieu et qui se battent pour mettre leur récit dans nos moments d'évasion, pour donner des modèles à tous les enfants, à tous les adultes, quels qu'ils et elles soient. Et pour finir, sur une jolie note, je vais juste citer un tout petit passage du livre d'Alice Coffin. Je la cite. « Ils sèment le malheur, nous voulons la joie. Être lesbienne est une fête, ils ne gâcheront pas la fête. »
Hey. Merci Alice Coffin pour tout ce que vous faites.
Lisez son livre. Voilà, et du coup Elsa, tu nous présentes notre prochaine warrior.
Ouais, c'est Juliette qui va nous parler de Fleabag. Je sais pas si vous en avez entendu parler, moi ça fait 2 ans que tout le monde me dit « il faut absolument que tu le regardes ».
Pareil.
Et je l'ai regardé il y a 2 semaines, donc je vais pouvoir vous donner mon avis aussi. Et Juliette, elle a 25 ans et elle nous raconte donc comment Fleabag, en une scène, a donné un coup de pied salvateur dans le tas de morosité qui l'entourait.
Alors, moi, c'est la série Fleabag qui m'a bouleversée. C'est une série de Phoebe Waller-Bridge, à qui on doit aussi Killing Eve. Dans cette série, on suit une trentenaire qui va mal, genre vraiment mal. Et elle s'accroche, elle sort, elle ken, mais c'est la merde. Son boulot, ça va pas, sa famille, c'est catastrophique, elle a perdu sa meilleure amie, enfin, ça va pas. Mais rien que ça, de voir quelqu'un qui va pas bien, mais où on montre ça pas comme une fatalité, mais on montre ça aussi avec beaucoup d'humour, ça m'a fait beaucoup de bien. Moi, j'étais en pleine dépression, en partie en raison d'un stress post-traumatique suite à une agression. J'avais pas vraiment envie de mourir, mais je voyais vraiment pas comment je pourrais avoir encore envie de vivre 60 ans de plus, alors qu'à 23 ans, j'étais vraiment... épuisée. Et puis il y a cette scène avec une dame qu'elle drague à moitié au bar après avoir encore fait des boulettes lors d'une soirée. La dame, elle a les cheveux gris et elle a plein de panaches. C'est une scène de sororité, de deux femmes qui discutent entre quatre yeux et qui se disent les choses. Et puis la dame, elle lui demande son âge. Quand elle apprend qu'elle a 30 et quelques années, elle lui dit « Oh, ma pauvre !» Elle lui raconte comment plus on avance, plus on est débarrassé des attentes, plus on est bien, plus on est assuré. Moi, cette série... elle m'a donné envie de pas laisser ce mec bouffer ma vie. Cette série, elle m'a donné envie de vivre et de vieillir. Et puis, bah, bien sûr, ça a pas suivi, ça a été beaucoup de travail. Mais aujourd'hui, j'ai envie de le faire, de vivre et puis de vieillir.
Merci,
Juliette. J'ai tellement envie de te faire un câlin.
Oui.
Bravo pour tout ton courage.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Et elle a rajouté par écrit, on voit jamais ou presque de vieilles femmes ou de femmes vieillissantes qui sont heureuses de vieillir. Moi, ce personnage m'a donné envie d'aller au moins jusque là et du coup, je me suis battue pour aller mieux. Aujourd'hui, ça va mieux. Faire une thérapie, ça a été l'acte le plus warrior de ma vie. J'aimerais bien qu'elle me soit remboursée par mon agresseur, mais faut pas rêver. Déjà, je profite et je suis de nouveau capable d'épauler mes adelphes.
Yes! Bravo!
Donc, ouais, méga victoire, méga warrior. Et donc voilà, comme je disais, moi je l'ai vu il y a 2 semaines ou la semaine dernière, cette série, et effectivement je suis d'accord, c'est vraiment super super génial, et surtout le fait de voir, comme elle dit, hein, une femme qui est pas parfaite, qui va pas super bien, etc., et de le montrer cash sans faire semblant. En plus de ça, c'est très drôle, c'est de l'humour anglais, alors moi j'adore. Après, tout le monde peut-être n'aime pas ça, mais enfin ça me fait vraiment mourir de rire. L'actrice est très bien aussi, et elle évoque un thème très important et qui est central dans notre sujet que t'as évoqué, Anaïs, aussi, c'est donc la représentation, le fait d'avoir des modèles auxquels s'identifier. Donc j'ai cherché quelques chiffres sur la place des femmes dans les séries. J'ai trouvé une étude sur les séries américaines. Alors faut pas rêver, on va pas une étude sur toutes les séries du monde, mais voilà. Et qui était faite par l'Université d'État de San Diego en Californie. Alors déjà, à votre avis, quel pourcentage de séries sont créées par des femmes?
Je sais pas.
3%. Comment il est pessimiste.
Alors bon, là c'est très récent et c'est aux États-Unis, donc on peut se dire que potentiellement il y en a quand même plus que par exemple en France, enfin j'imagine, hein. Et en l'occurrence dans dans le panel, enfin dans la sélection qu'ils ont faite, il y avait 28% de créatrices, réalisatrices, auteurs, productrices et réalisatrices. Alors, ça me fait penser au discours de Agnès Jaoui qu'elle a fait, où elle disait putain, mais toute ma vie j'ai été hyper contente qu'il y ait 20% de réalisatrices ou je sais pas quoi, alors qu'en fait j'aurais dû être outrée qu'il y en ait pas 50% quoi.
Ouais.
Donc voilà, on peut se dire 28%, c'est plus que ce qu'on imagine, mais c'est quand même pas assez, clairement.
Voilà.
En coulisses, les postes occupés par les femmes sont minoritaires. 50% des programmes emploient 4 femmes ou moins derrière la caméra. Voilà. Et ensuite, bah, à votre avis, est-ce que le fait qu'une série soit créée par une femme, ça aura un impact sur la proportion de femmes représentées?
Oh bah.
J'aurais tendance à dire pas vraiment. Ça dépend. C'est...
Bah, là, en tout cas, dans les programmes qui ont au moins une femme pour créatrice, les femmes représentent 51% des personnages principaux.
Donc moitié-moitié, quoi.
Voilà.
Ça veut pas dire qu'elles mettent que des femmes à l'écran, quoi.
Non.
Ça veut dire que juste...
on atteint
juste
la parité.
Voilà.
Et voilà. Et dans les programmes dont les créateurs sont exclusivement masculins, c'est 38%.
D'accord.
Donc là, on voit quand même qu'il y a une différence
Y a un gap,
assez nette. Après, donc
mais
là,
ils sortent pas, ces gens. Ils vont pas dans la rue voir à quoi ça ressemble, la vie.
Apparemment, non. Et donc là, on parle de quantité, mais niveau qualité, ça donne quoi? Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de stéréotypes. Donc, les personnages féminins sont souvent plus jeunes que leurs homologues masculins, ont plus tendance que les hommes à être définis par leur statut matrimonial, sont moins susceptibles d'être mis en scène au travail ou en train de travailler. Voilà, super, merci.
Et elle parle tout le temps des hommes d'ailleurs aussi.
Voilà, donc là, bah il y a, on en avait déjà parlé, le test de Bechdel qui dit qu'en gros, est-ce que un film ou une série passe le test tout simplement de est-ce qu'il y a plus de deux femmes et est-ce qu'elles parlent entre elles et est-ce qu'elles parlent entre elles d'autres choses que des hommes. Et enfin, breaking news, il y a pas beaucoup de séries et de films qui passent le test.
Ouais.
Voilà, et juste je voulais vous donner quelques exemples de séries créées par des femmes parce qu'on sait pas toujours qui crée les séries en fait. Donc par exemple Grey's Anatomy et Scandal, ça a été créé par Shonda Rhimes qui a créé aussi plein d'autres séries.
Scandal, sacrée figure badass aussi.
Ouais. Incroyable. Insecure par Issa Rae. Alors il y a une série que j'ai découverte récemment qui est géniale qui s'appelle Twenties par Lena Waithe qui est une afro-américaine lesbienne. Donc alors là je peux vous dire que c'est en termes de représentation c'est vraiment vraiment woke, vraiment badass. Après bah il y a Chewing Gum et I May Destroy You par la géniale Michaela Cole. Après il y a Mindy Project par Mindy Kaling. Broad City, je sais pas si vous l'avez vu, mais alors là c'est waouh, c'est incroyable. Broad City par Abby Jacobson et Ilana Glazer. Fleabag donc dont on vient de parler. Girls par Lina Dunham, Weeds et Orange is the New Black par Jenji Cohen. Transparent, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur, c'est une
J'en
histoire...
Ça a l'air ouf.
Voilà, d'un père qui transitionne, père de famille, et en fait, donc c'est Jill Soloway qui s'est basé sur sa vraie histoire, sur l'histoire de son père. Ensuite, il y a aussi Unreal, qui est une série sur la télé-réalité qui est vachement bien, qui a été créée par deux femmes.
D'accord.
Donc effectivement, là, on voit... Ça se sent tout de suite, en fait, dans ces séries, que le regard, il est pas le même, quoi.
Bien sûr. Et c'est intéressant aussi ce que soulevait Juliette avec la question de l'âgisme.
Ouais,
parce que
je trouve
que c'est un sujet qui est vraiment très peu traité, et même y compris dans les sphères féministes. Alors que ça en dit long sur nos sociétés. Et pour le cinéma, comme à la télé, en fait, on parle carrément d'un tunnel de la comédienne de 50 ans pour les actrices. En gros, au-delà de cet âge, elle se voit quasiment plus proposer de rôle. Bah oui, parce qu'une femme à l'écran, ça doit être jeune, forcément.
Mais oui, il faut qu'elle soit baisable, non, au moins.
Et fécondable.
Et fécondable.
Très important.
Voilà.
Sinon, à la poubelle.
Voilà. Mais si tu peux pas faire d'enfant, tu peux avoir quel rôle, s'il te plaît? T'es pas maman. Donc voilà, alors que les acteurs, eux, peuvent avoir des carrières super longues, avoir les cheveux qui blanchissent et tourner encore quand ils sont vieux. Ils sont des vieux détectives, des vieux héros, etc. Mais ça fonctionne. Donc il y a carrément une commission au sein de l'association des actrices et acteurs de France associés qui s'est donnée pour mission de faire bouger le curseur. Parce que toujours pareil, on a besoin de modèles plus âgés, on a besoin de sortir de cette image normée de femmes fécondables. Et les femmes aussi, de plus de 50 ans, elles ont le droit à leur personnage inspirant, bordel de merde. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de fin sur leur
Vraiment. Ouais.
Et Marga, du coup, tu nous présentes notre prochaine warrior.
Oui, alors Pauline, elle veut nous parler de la série Mad Men. Donc l'intrigue se passe dans une agence de pub de Manhattan dans les années 60. C'est vraiment la Kardashian du Men's Club dans toute sa splendeur,
sans
limite. J'ai vu cette série et vraiment, c'est à gerber l'ambiance dans ce bureau.
Moi, j'ai pas pu la regarder jusqu'au bout.
Tous les mecs sont médiocres, ils se prennent pour des génies. Ils n'ont jamais rien inventé de leur vie, quoi, clairement.
C'est clair.
Leurs réflexions sont hyper misogynes. Ouais. Enfin, ils boivent de l'alcool toute la journée.
C'est insupportable.
Ils font de la pub pour du dentifrice, quoi.
Ouais, super. Calme-toi, quoi. T'as envie de mettre une bombe dans ce bureau, quoi.
Voilà.
Mais pour moi, le personnage le plus intéressant de cette série, c'est celui dont Pauline veut nous parler, c'est Peggy Olson. Mm. C'est vraiment un personnage qui parle à toutes celles qui ont voulu percer ou essayer de percer ou réussi à percer dans un milieu très masculin.
Et elle prend très 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 cher.
Elle prend très très cher.
Franchement, wow.
Ouais. Mais je vous laisse Pauline vous raconter.
Elle me fait du bien, Peggy Olson, depuis que je la connais. La série s'est arrêtée il y a 5 ans et tous les jours, je me demande ce que Peggy devient. C'est devenu une amie. Pourquoi ? Je vais vous le raconter tout de suite. Peggy Olson, au début de Mad Men, donc cette toute jeune fille, arrive pour devenir secrétaire et à la fin de la saison 1, elle a eu tellement de punchlines, de remarques pertinentes que les mecs qui l'entourent, qui la dirigent et qui la payent, ont compris qu'ils allaient passer à côté de quelque chose, d'un pur talent créatif. À la fin de la saison 1, Peggy Olson est montée en grade, et on l'autorise à elle aussi commencer à concevoir des publicités. Ce qui est, à l'époque, une véritable révolution au sein de sa boîte. Et ben elle le fait. Et tout au long de la série, on va voir, dans son parcours aussi bien pro que personnel, on va voir la transformation d'une jeune femme en femme, mais aussi comment apprendre à ne pas s'excuser d'aimer son taf, d'être créative, d'être féroce, d'être sans peur, et comment arriver à le mettre en pratique tous les jours. Si je garde ce personnage dans mon cœur pour toujours, c'est aussi parce que son véritable tour de force, tout au long de la série, c'est d'être mise en opposition au soi-disant vrai héros de Mad Men, Don Draper, qui est l'incarnation parfaite de la masculinité toxique, qui est un mec ravagé par la cigarette et l'alcool, qui a un physique de cow-boy, qui est un très très beau mec, mais qui est surtout un gars complètement paumé, qui fait n'importe quoi avec sa femme, ses enfants, ses nombreuses maîtresses. Mad Men raconte la chute de ce Don Draper et l'ascension de Peggy, mais elle raconte aussi le moment où ces deux êtres se retrouvent et créent quelque chose de très très beau, une relation fraternelle et quasi spirituelle, où à la fin de la série, c'est la toute jeune Peggy qui non seulement devient la boss de Don Draper, mais en plus c'est celle qui lui dit « Mon gars, arrête de te détruire, arrête de t'acharner ». Les années 70 sont bientôt là, il va falloir passer à autre chose. Et elle l'aide à l'apaiser, et elle le sauve. Donc Peggy n'est pas un personnage parfait, hein. Son acharnement au taf, ses propres réflexes parfois, qui sont empreints de misogynie intégrée de temps à autre, de racisme aussi. Elle n'est pas parfaite, mais elle se remet en question à chaque fois, et surtout elle contribue à sauver quelqu'un qui en a réellement besoin, même si c'est un homme. Et pour ça, je la garde dans mon cœur pour toujours. Pour moi, c'est ma badass de série, et je suis très contente de vous en parler.
Dis donc.
Ouais, merci Pauline. Bon, pardon, j'aurais dû dire.
Alerte spoiler.
Spoiler, merde. Merci beaucoup Pauline. Mais j'ai quand même une petite remarque, hein, si je peux me permettre, Pauline. Quand les femmes seront au pouvoir, peut-être qu'on n'aura pas besoin de se faire chier à sauver les hommes, sérieusement.
Ah, non.
Ou alors vraiment par charité.
Comptez pas sur moi.
Peut-être. Uniquement si on a le time.
Uniquement si on a le time, et puis aussi choisir ceux qui en sont dignes en fait. Oui. Voilà. Alors moi je sais pas. Voilà. Si Don Draper, c'est vraiment.
Ah moi je l'aurais laissé sur le bord de l'autoroute direct.
Ah mais c'est clair.
Pas le time.
Mais ouais. Non moi j'ai beaucoup aimé aussi ce personnage de Peggy Olson. Ouais. Et comme toi Naïs, j'ai failli à un moment me dire non mais j'arrête de regarder cette série. J'en peux plus vraiment. C'est trop horrible. Mm. Et c'est vraiment ce personnage de Peggy qui m'a dit non mais en fait allez
ouais,
on va continuer parce que ça. Enfin c'est vraiment un chouette personnage qui est joué par Kate Moss qui joue aussi dans...
Rôle principal dans La Servante Écarlate.
Ouais. La Servante Écarlate, voilà. Mmh. Et dans de nombreuses autres séries où elle est... Enfin, moi, j'adore cette actrice, en plus. Donc...
Bah, ça me donne envie de reprendre la série, en tout cas, parce que ce spoiler aura peut-être servi à me raccrocher à la série. De savoir qu'elle va finir boss, finalement, j'ai envie de voir la suite.
Non, mais c'est vrai que quand elle devient... Quand il lui donne plus de responsabilités, c'est kiffant. Mais après, moi, j'ai tellement mal vécu ce qui lui arrive. Je crois que c'est dans la première saison où elle se fait violer et tout.
Ouais, enfin, c'est horrible.
Waouh,
c'est super trash. C'est assez trash.
Ouais. Donc plein de trigger warning et de spoil, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe.
Mais comme dans la plupart des séries, je pense que c'est difficile de trouver une série où
safe. Ça n'existe pas.
Safe à 100%,
j'en connais pas.
Malheureusement, voilà, dans toutes les séries qu'on vous propose là aujourd'hui, je crois que faites vos petites recherches avant de vous lancer si jamais il y a des sujets avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise. Ça me permet aussi de parler du female gaze, c'est-à-dire le point de vue féminin, parce que on en a parlé, hein, ça ne suffit pas de juste représenter des femmes ou même des personnes trans ou des personnes grosses ou des personnes racisées pour avoir du bon contenu et en tout cas du contenu qui représente tout le monde. Par exemple, on peut prendre l'exemple de Pamela Anderson dans Alerte à la Malibu. Hein, il y a énormément de ralentis pour bien insister sur son corps, qu'on voit bien ses seins, ses fesses, machin, tout ça. Donc voilà, représenter les femmes à l'écran, ça suffit pas en fait. Il faut donner à voir à l'écran aussi l'expérience féminine, que le téléspectateur puisse ressentir vraiment ce que vit l'héroïne, sans forcément s'identifier à elle, mais en tout cas
qu'elle soit bien incarnée, quoi.
Qu'elle soit bien incarnée par des éléments de mise en scène, par le cadrage, par exemple.
Très important.
Voilà. Et par exemple, puisqu'on parle de Mad Men, il y a une scène qui est assez marquante, dont parle Pauline aussi dans son témoignage, mais j'ai dû couper pour voilà. En fait, c'est Peggy arrive dans son nouveau bureau et justement sur cette notion de comment on met en scène cette arrivée dans son nouveau bureau, là on voit bien cette notion de female gaze. En fait, elle arrive déjà de la façon dont elle est coiffée, son costume, sapée. Elle est coiffée, sapée, elle a des lunettes de soleil, une clope au bec, elle a un gros carton dans les bras et elle avance. Et voilà, elle est filmée donc dans le couloir, elle est de face, elle prend toute la place sur l'écran. Ouais. Les mecs qu'elle croise s'écrasent vraiment, ils rasent les murs. Ouais. Et il y a un tout petit ralenti qui permet vraiment de sentir à quel point elle se sent supérieure à tous ces pauvres mecs là qui sont là. Qu'elle, elle a vraiment mérité d'arriver comme une queen vraiment dans ce bureau. Et voilà. Et là, on n'est vraiment pas sur le choix du personnage ou sur l'histoire de ce personnage. On est vraiment dans une question d'esthétique, de comment on filme cette scène. En fait, c'est la question que s'est posée la personne qui réalisait. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important pour représenter cette expérience féminine. Alors tout ce que je dis là, évidemment, je l'ai pas inventé. Je me suis très largement inspirée du travail de Iris Bray, qui est donc une chercheuse et enseignante à l'Université de Californie et qui est spécialiste du cinéma et qui a beaucoup travaillé sur cette question-là. Et si ça vous intéresse, ces questions d'esthétique, de où on place la caméra pour donner en fait un sens aussi à son image et voir un sens politique et voilà, une intention en tout cas, vous pouvez lire son livre qui s'appelle Le regard féminin, une révolution à l'écran et qui est passionnant. Et vous apprendrez aussi que par exemple, pas besoin d'être une femme forcément pour faire du female gaze. Un homme aussi peut avoir cette intention-là. Voilà, c'est pas une question du genre de la personne uniquement, c'est en fait juste une question d'intention.
Ouais, et de démarche du coup.
Exactement.
Yes, merci Marga. Et du coup, Elsa, tu nous présentes Marie.
Oui, alors Marie, alors je sais pas si vous avez vu Sex Education sur Netflix.
J'ai adoré.
Voilà, pour moi, c'est une des séries les plus validées que j'ai jamais vues. Je me suis vraiment réjouie en la voyant que les jeunes d'aujourd'hui puissent voir ce genre de série.
Ça, mais pourquoi on n'avait pas ça?
Non, mais tu vois, qui est hyper safe sur la sexualité notamment. Je me doutais en fait que ça aurait un impact très fort, mais alors quand j'ai entendu le témoignage de Marie, enfin, je vous laisse découvrir, hein, mais là, je me suis dit, c'est next level.
Bonjour à toutes, j'envoie cet audio parce que il y a une série qui a influencé une grosse décision de ma vie. C'est la série Sex Education, que vous connaissez peut-être. Ça a commencé en octobre 2019, il y a un homme qui m'a violée. Les semaines qui ont suivi, je réalisais pas trop et en même temps, oui, j'étais dans le flou. Puis ensuite, un mois et demi, deux mois après, ça allait vraiment plus du tout. Je suis allée voir une psychologue. Elle m'a demandé, dans les questions qu'elle m'a posées, ça a été « Est-ce que j'envisage de porter plainte ?» Ma réponse était assez claire. Non, pas du tout. Je vois pas pourquoi l'enfoncer lui, ça me permettrait d'aller mieux moi. Et puis je voudrais juste que lui, il aille mieux, qu'il recommence pas. Et du coup, s'il a fait ça, c'est qu'il doit pas aller bien. Il faut l'aider à résoudre ses problèmes. Et en plus de ça, j'avais une grosse tendance à, dès que je parlais du viol, le minimiser. C'est-à-dire que je finissais mes phrases par « Mais c'est pas grave ». Et je changeais de sujet. Quelques semaines plus tard, je regardais du coup la série Sex Education avec un pote. Et pendant cette série, il y a Amy, une des personnages, qui se fait agresser sexuellement dans un bus. Son amie, Maeve, dans la série, qui lui dit d'aller porter plainte. Et la réponse d'Amy a été « Bah non, s'il a fait ça, c'est qu'il doit pas aller bien. Je vois pas pourquoi ça m'aiderait à aller mieux de porter plainte contre lui. » Et là, ça a été un choc parce qu'elle a utilisé exactement les mêmes mots que moi. Et ça me semblait évident qu'elle devait aller porter plainte parce que c'est quelque chose de grave ce qui lui était arrivé. Mais j'arrivais pas, j'appliquais pas ça à moi, quoi. Du coup, j'ai mis la série en pause. J'ai regardé mon pote et je lui ai dit « Bah, demain, je vais porter plainte. Faut que je fasse quelque chose pour que ce connard, il recommence pas. » Et je suis allée porter plainte le lendemain. Et ça faisait beaucoup de bien d'agir, parce que on a beau être une féministe profondément convaincue de la cause, quand on se fait violer, il y a quand même des pensées qui arrivent dans notre tête, genre c'est de ma faute, etc. Et du coup, reprendre le contrôle de la situation, ça fait du bien. Ça peut passer par plein de choses, mais porter plainte, ça a été une des méthodes pour moi. Et je veux pas que ce témoignage ce soit une injonction à la plainte. Faut pas culpabiliser si t'as pas envie d'aller porter plainte. Le système judiciaire est foireux et du coup, si tu veux pas t'embarquer dans ce système, je comprends. Et prends soin de toi, c'est la priorité, quoi. Mais si t'as envie, y a des gens qui accompagnent très bien ces procédures-là. Voilà, bonne journée.
Merci. Wow.
Bravo, j'ai des Marie. Frissons, vraiment. Ouais. Merci, Marie, de nous avoir confié ton précieux témoignage.
Ouais, c'est clair. Merci, bravo pour ton courage. Et en fait, c'est très intéressant le phénomène dont elle parle, qui, je pense, est très mal connu. Le fait qu'on puisse avoir de l'empathie pour son agresseur. Et en fait, c'est très fréquent. Hein. Non seulement ça, plus la culpabilité de la victime et le fait de minimiser ce qui nous est arrivé. En plus, en tant que femme, on a tendance à se faire petite, à s'inquiéter pour les autres. On nous a vraiment éduqués à ça. Et c'est incroyable de se dire que quelqu'un qui t'a fait autant de mal, tu puisses faire passer ses besoins avant les tiens, en fait. Tu voulais dire quelque chose ?
Non, je réagis parce que ça me transporte.
Ouais, non, mais c'est dur. Et comme elle dit, après, évidemment, hein, porter plainte, c'est pas forcément la solution magique. On sait que la police nous accueille pas forcément bien. Et par rapport à ça, je voulais parler aussi de la série I May Destroy You, qui est sortie il y a pas longtemps, donc qui parle aussi de viol. Et en fait, il y a plusieurs scènes où elle va à la police et elle est accueillie par deux femmes qui sont, exemplaire en termes de comment elles la reçoivent, comment elles prennent le temps de l'écouter, comment elles la respectent. Moi, j'avais jamais vu ça, ni dans la vraie vie, ni dans des séries, en fait, et je trouvais ça vraiment important qu'elles montrent un exemple, justement, de comment ça devrait être. Alors, je ne sais pas si ça se passe réellement comme ça en Angleterre, pour moi, je pense que c'est quand même une exception, mais tu sentais que c'était des personnes qui étaient formées pour ça, à l'accueil des victimes, etc., ce qui est clairement pas le cas de la majorité des flics dans les commissariats. Et je me suis dit, vraiment, même si c'est pas réaliste, c'est bien parce que comme ça, on voit à quoi ça devrait ressembler.
Mais ça peut inspirer peut-être des flics qui regardent la série.
Exactement. Moi, ça m'a vraiment fait halluciner, quoi. Je me suis dit, waouh, mais si c'était comme ça, ce serait vraiment pas du tout pareil, quoi. Enfin.
Ouais. Mais en sens, il y a la série Unforgettable aussi qui est.
Unbelievable.
Moi et l'anglais, c'est toujours. Qui est vraiment chambé où c'est deux enquêtrices qui enquêtent sur. En plus, c'est inspiré de faits réels qui enquêtent sur des agressions sexuelles en série et qui ont. Du coup, contrairement à d'autres flics qui apparaissent dans la série, une vraie empathie pour les victimes et une vraie formation aussi sur l'accueil de des victimes et de la parole qui raconte ces violences-là. Donc moi, c'est la première fois de ma vie que je voyais une série dans laquelle la victime est bien accueillie.
Pareil, j'ai trouvé ça complètement fou, la première scène où elle vient et elle lui parle, elle dit « mais tu veux qu'on se mette dans la voiture, on sera plus tranquille, t'es à l'aise, non mais prends ton temps ». Je me suis dit « mais waouh ».
Qui la pousse pas à porter plainte non plus, qui sont d'abord dans l'écoute, etc. Moi qui ai accueilli la parole de victime pendant des années, vraiment. Là, c'était le level professionnel. Et de la même manière, dans l'exemple que Marie cite dans Sex Education, cette scène-là de l'agression et tout ce qui se passe après, pareil. Là, c'est la meuf de Paita Schneck qui commente, quoi. Mais j'ai jamais vu une agression aussi bien traitée non plus à l'écran, y compris la réaction de la pote qui met le mot agression à sa place, la sidération, le fait qu'on soit d'abord empathique envers l'agresseur avant de l'être envers soi-même. Et surtout, une des plus belles scènes, moi, que j'ai vues de série de toute ma vie, c'est quand elles finissent par l'accompagner dans une caisse
qu'elles défoncent des voitures
tout ensemble. Pour faire sortir cette violence et la rendre, parce qu'elle nous appartient pas, c'est la violence des hommes, ça. Donc, cette scène, pour moi, je m'étais mise en couverture sur Facebook et tout, j'ai fait une capture écran, tellement j'ai trouvé ça beau, cette scène de sororité. C'est vraiment sublime. Cette série, pour moi, est vraiment, vraiment top.
Ah non, mais moi, je crois qu'à ce moment, j'ai crié, sauté sur mon avis, mais j'étais avec elle, quoi. J'ai la batte de baseball, là. Je vais casser le vase de mamie, là, c'est bon.
Donc, c'est vrai, c'est une série c'est une scène, en tout cas, qui a dû marquer, à mon avis, pas mal de monde.
Ouais.
Toutes celles qui sont concernées par ces questions ont dû s'y reconnaître d'une manière ou d'une autre, parce qu'en plus, toutes les copines ont une façon différente de réagir. Donc, vraiment, vraiment top, quoi. C'est la première fois que je voyais ça. Bravo, Marie, du coup, d'avoir réussi à trouver tout ce courage, et on est ravis que t'aies trouvé un petit peu d'inspiration. Ouais. On espère que d'autres les trouveront ailleurs que dans les séries, mais simplement autour de nous directement. Voilà, c'est l'objectif. Bien, et maintenant je vous présente Pauline. Donc on a eu Marie et Marie, maintenant on a Pauline et puis Pauline. Pauline a 36 ans et elle nous parle d'une victoire envers elle-même grâce à la série Girls, qui est scénarisée et réalisée par Lena Dunham et qui incarne le personnage d'Anna dans la série.
Donc pour contextualiser un peu, je suis ronde depuis mon enfance. J'ai longtemps été complexée par mon corps et je l'ai beaucoup détesté. Je me suis construite du coup avec ce regard négatif, mais aussi avec celui des autres qui se sont permis de le critiquer, notamment pendant mon adolescence. J'ai l'impression d'avoir toujours été en lutte avec mon corps au lieu de le considérer comme un allié, et notamment pour traverser les épreuves de ma vie, et je trouve ça vraiment dommage. Toujours est-il qu'au début de ma vie d'adulte, une de mes astuces pour m'apprécier, pour m'affirmer, ça a été de jouer sur mon image en osant mettre des vêtements qui me plaisaient. Donc c'est passé par des accessoires décalés, des robes à fleurs, à pois ou à motifs de chat, de dinosaures. Mais en fait, à part des robes amples, je ne mettais rien d'autre. Et en été, je gardais même mes leggings pour cacher mes jambes. Finalement, tous ces vêtements, ils recouvraient mon corps que je n'avais toujours pas accepté. En 2020, j'en étais toujours au même point, à quelques nuances près. Comme beaucoup de monde, je me suis retrouvée confinée chez moi, seule, traversant en plus une période de ma vie assez tumultueuse. Bref, à un moment donné, j'ai forcément eu envie de me changer les idées et j'ai donc regardé Girls. Dans la série, Anna est une femme ronde, tatouée, c'est un personnage complexe et plutôt affirmé.
I think that I may be the voice of my generation. Or at least a voice of a generation.
Elle s'habille avec des robes à fleurs ou des vêtements décalés justement et elle affiche ses rondeurs, elle s'assume complètement et on la voit nue quasiment dans chaque épisode. Et ça, ça a fait toute la différence pour moi. Je l'ai trouvée vraiment sublime dans sa légèreté, son assurance, son rapport au corps décomplexé. Car oui, on peut être ronde et légère en fait. C'est qu'une question de regard que l'on porte sur soi finalement. Et c'est un choix que l'on fait pour soi à un moment donné. En tout cas, c'est ce que je pense. Ça m'a tellement fait du bien de voir un corps imparfait, un corps qui ressemble au mien et à celui de plein d'autres personnes en fait. Un corps qui est rarement représenté. J'aurais vraiment aimé grandir avec ces représentations-là. Alors, même si je ne suis pas en phase avec tout ce que véhicule cette série, le personnage d'Anna m'a donné beaucoup de force et m'a aidé à déconstruire ce qui était bien ancré en moi. Cela fait 15 ans que je ne porte plus de pantalon par complexe, et du coup, lors du déconfinement, je suis allée m'en acheter et j'ai même trouvé une combinaison avec des motifs chats. Quand j'ai porté cette combi, j'ai un peu vu Anna et ça m'a fait sourire. Clairement, une étape était franchie et ça, c'est ma victoire. Je voulais rajouter une chose aussi, c'est qu'en fait, cette série Girls, je l'avais déjà regardée il y a quelques années, et cela n'avait pas eu les mêmes effets du tout sur moi. Comme quoi, il y a aussi des moments dans nos vies où nous sommes plus réceptives et prêtes à changer des choses pour soi. Entre le premier visionnage de la série et aujourd'hui, bah en fait, j'ai tout simplement découvert le féminisme et je suis devenue bénévole au planning familial. Donc toutes ces découvertes, lectures, podcasts, vidéos, et puis mes rencontres liées au féminisme, m'ont aidée à m'apaiser, même si elles m'ont aussi ouvert les yeux sur tout ce qui n'allait pas dans nos sociétés. Ce que j'ai compris aussi, c'est que mon mal-être intérieur pouvait être provoqué par l'extérieur, à cause de ce que la société a construit. Donc conclusion, déconstruisons tout ça.
Merci beaucoup Pauline pour ton témoignage super intime mais surtout super inspirant.
Ouais.
Et puis bravo pour toutes tes victoires parce que moi j'en vois plusieurs au final.
Ah bah clairement.
Il y a à comprendre que ton mal-être n'est pas arrivé tout seul, hein. Il n'est pas en toi mais vient de ce que la société t'impose. Remettre des pantalons, mieux mettre une combi à motif chat.
Wouhou !
Devenir bénévole au planning, bref ça fait une guirlande de victoires donc bravo, bravo, bravo Pauline. Et au passage, vive les féminismes, hein. C'est toujours un bonheur de savoir que le taf des militantes et militants porte ses fruits et aide très concrètement les personnes même de façon individuelle. Alors Girls, comme Pauline l'a dit, c'est pas non plus la série parfaite, évidemment. Pour exemple, si tu comptes le nombre de personnages racisés, tu risques d'avoir beaucoup trop de doigts disponibles. Le casting est super blanco. Mais bon, effectivement, au niveau du discours sur le corps, elle se pose là. Perso, avant de la voir, j'avais jamais vu un premier rôle qui soit une femme, qui ne rentre pas dans un 34, qui s'assume totalement à l'écran, qui a une sexualité active et explicite. Moi, je peux aussi dire que cette série m'a fait du bien de ce côté-là. Et la grossophobie à l'écran, c'est un problème super répandu. Si tu regardes dans les films et séries en général, il y a qu'un ou une personnage qui soit gros. Et en général,
général, soit il ou elle meurt tout de suite, soit c'est la victime de service, soit c'est au contraire un méchant sale et mal poli. On a rarement des rôles complexes avec de vraies personnalités et de vrais enjeux dans le scénario. Donc c'est effectivement une série qui se pose là, en tout cas, qui a posé des pierres. On attend de trouver encore mieux, mais du coup on est ravis que Pauline ait pu trouver de l'inspiration dans ce personnage.
Moi, ça m'avait vraiment fait du bien aussi quand c'est sorti. Je m'étais dit waouh, mais ça parle de nous, quoi. Mm-hmm. Tu vois, enfin, c'était comme un Sex and the City, mais version plus actuelle, quoi.
Ouais,
en fait.
Ouais. Donc très bien, comme quoi les séries peuvent faire du bien. Les séries font du bien.
Enfin, exactement.
Quand elles font pas de mal, du coup. Bien, Marga, tu vas nous, tu as demandé un petit peu aux personnes qui nous suivent de nous faire des recommandations de séries.
Oui, c'est ça. Vous êtes en train de vous dire, mais cet épisode, dis donc, il y a énormément de choses à dire, trop de séries et tout. Mais c'est clair, en fait, on a reçu énormément de messages. Vraiment, tout le monde avait envie de proposer ses personnages préférés. Donc, parmi vos messages, j'en ai sélectionné quelques-uns. Désolé, quelques idées à piocher pour vos prochains binge watching. Alors, pour commencer, j'envoie un énorme câlin à Louane, qui a été inspirée par le personnage de Joe et de Marco dans Grande Armée, et notamment par une scène d'agression sexuelle. Ça rejoint le témoignage de Marie tout à l'heure. Donc, Louane raconte, ça m'a fait écho à ce que j'ai vécu moi-même au lycée. Ça m'a fait réaliser que ce n'était pas de ma faute, et ça m'a énormément triguée, mais à la fois j'ai eu l'impression d'être comprise. Joey a eu le courage de confronter ses agresseurs et ça me donne envie de faire de même, même après 3 ans. Voilà. Donc énormément de soutien,
cybercalin.
Voilà. Beaucoup de courage pour aller au bout de ta démarche.
Mais je l'ai vu aussi Grand Army et franchement c'est très 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 bien comme série, hein. Je le conseille à tout le monde.
Voilà, petite précision quand même puisqu'on parle de Grand Army. Alors 3 scénaristes ont quitté la série en accusant une partie de l'équipe dont la showrunneuse de racisme en fait. Voilà, il y a une petite polémique, ce qui n'enlève rien à la qualité de la série effectivement, mais juste pour dire qu'on peut être inclusif à l'écran mais problématique dans les relations de travail.
C'est clair.
Donc ça fera peut-être l'objet d'un prochain épisode. Voilà. Ensuite, alors Paloma nous écrit qu'elle a été très marquée par le personnage de Polly Gray. Je dirais même moi Queen Polly parce que j'adore ce personnage aussi. En fait, Polly c'est la tante des frères Peaky Blinders, les gangsters de Birmingham. Donc une histoire de mafia anglaise entre les deux guerres mondiales. C'est une série très belle. Les images sont fantastiques. La bande son rock, j'adore, mais très violente. Hein, voilà.
Je peux pas regarder. Voilà.
Si t'es pas branché hémoglobine, ça.
Laisse tomber. Tout le monde peut pas supporter et c'est normal. Donc Paloma nous écrit, Polly est tombée enceinte à 16 ans. Le père ne voulait pas reconnaître l'enfant. Elle s'est fait avorter seule et en est presque morte. Elle a eu 2 enfants d'un mari alcoolique qui est mort sous.
Oh non.
Et ces 2 enfants lui ont été retirés suite à une dénonciation d'un voisin. Bref, elle a eu une vie de merde, mais elle est devenue un des éléments principaux du gang Shelby grâce à elle seule. Et c'est un petit peu la matriarche badass de cette série.
Yeah.
Voilà.
On aime.
Alors ensuite, Colin nous a envoyé un long mail pour nous parler de Sarah Lund, une autre héroïne que j'adore aussi. Donc l'héroïne de Forbridelsen, une série danoise, connue aussi sous le nom de The Killing. Il y a eu une adaptation américaine. Alors dès le premier épisode de la saison 1, elle plante son mec, qu'elle était censée aller rejoindre pour habiter avec lui, pour accepter de prendre la tête à la dernière minute d'une enquête criminelle. C'est une accro au boulot qui délaisse aussi son fils. Il n'y a aucun moment où on se dit « elle gâche tout, elle ferait mieux de lâcher sa carrière de police ». Au contraire, on fait corps avec elle et on se dit qu'elle a raison de persévérer. C'est d'ailleurs sa persévérance qui fait qu'elle réussit à retrouver le coupable du crime sur lequel elle enquête.
Nouveau spoiler. Voilà. Mais on est ravis de savoir qu'elle trouve le succès dans son...
Allez, on va clore le chapitre des rocos. Chacune, une dernière série peut-être à recommander pour un personnage qui vous a vraiment
Si tu dois en choisir qu'une de cette année, moi je dirais Watchmen. C'est une série de science-fiction américaine avec donc en rôle principal Regina King. Son personnage s'appelle Angela Eybar. Et franchement, je sais même pas comment vous la décrire tellement c'est la meuf la plus puissante que j'ai jamais vue de ma vie, je pense. Enfin, elle est incroyable. L'univers de la série est trop trop cool et même si vous êtes pas forcément fan de science-fiction, parce que moi par exemple c'est pas forcément mon truc, on rentre très facilement dedans et voilà. Après c'est aussi hyper politique etc, mais très animé, très un peu aussi Black Mirror, un peu dystopie comme ça, mais vraiment Watchmen, regardez, c'est incroyable.
Okay. Je note.
Ben moi je l'ai rematé pour la deuxième fois là il y a 2 semaines, c'est She's Gotta Have It, Nora Darling n'en fait qu'à sa tête en français. Donc la série de Spike Lee d'après son film du même nom. Nora Darling c'est vraiment c'est la personnage principale, elle est femme noire pansexuelle polyamoureuse, elle est artiste, elle est engagée et surtout elle est libre. Et je me la suis regardée à nouveau il y a quelques jours parce que j'avais besoin un petit peu d'inspiration à ce sujet-là. Et j'ai eu raison parce que ça m'a fait du bien. C'est vraiment une femme qui ne transige pas, qui s'écoute. C'est elle qui définit les règles du game et elle transige jamais. Et voilà, c'est clairement moi ce qui me manque en ce moment. Donc c'est une série qui me fait beaucoup de bien et qui m'inspire.
Elle n'a pas le time, elle.
Elle n'a pas le time.
Ouais, et moi, le dernier personnage féminin qui m'a vraiment marqué, c'est Annalise Keating dans Murder.
Ouais.
J'étais complètement passée à côté de cette série et là je l'ai regardée là pendant le dernier confinement, dernier confinement chelou. Et franchement, elle est vraiment puissante. Alors c'est pour ceux qui ne l'auraient pas vue, donc c'est une avocate qui donne des cours à la fac, dans une fac très prestigieuse. Et l'intitulé du cours c'est comment se dépatouiller d'un meurtre, comment acquitter des coupables en gros quoi.
Ouais.
Donc au début j'étais assez sceptique parce que c'est vraiment l'avocate carriériste qui fait acquitter des violeurs, des assassins. On se dit mais c'est quoi cette meuf qui a pas de morale. Et en fait au fur et à mesure on se rend compte qu'en fait c'est un personnage super complexe, avec plein de traumas, plein de contradictions, enfin c'est vraiment quelqu'un qui m'a énormément touchée, et notamment tout ce qui a trait au désir d'enfant et à la parentalité, parce que elle n'a jamais pu avoir d'enfant et c'est vraiment un thème central du personnage et de la série. Et je crois ne l'avoir jamais vu traité à ce point là en fait, le thème des fausses couches, de la perte d'un enfant mort-né à l'accouchement. Je crois même pas que ça existe. Enfin, si quelqu'un me trouve une autre série sur ce thème-là, mais c'est vraiment super bien traité et je vous recommande. J'ai vraiment kiffé. En plus, joué par Viola Davis, qui est formidable.
Ouais.
J'adore
cette meuf. Trop la classe.
Excellente. Eh ben merci. Du coup, ça c'est bien. Je vais plus sortir de chez moi pendant 6 mois.
Ouais.
Je vais respecter les règles. Je vais me reconfiner toute seule. Bien. Et du coup, maintenant, on passe au moment self-care. Et ce mois-ci, on s'est dit que pour se faire du bien, on allait faire du mal.
Voilà. Et cette fois-ci, le self-care, c'est un moment misandre. On va faire le tribunal des personnages masculins toxiques. Donc, on vous a demandé quels étaient, selon vous, les pires personnages masculins de série et leur sentence.
Et vous vous êtes lâchés.
Ah ouais, là, franchement, on a dû faire une sélection parce que vraiment...
Il y en a dans chaque série, des personnages comme ça. Donc, ça pourrait durer des années.
Donc, on va vous dire un peu le top 5 de ceux qui sont les pires. Donc, en premier, on peut parler de Chuck Bass dans Gossip Girl, qui est quand même vraiment l'archétype de l'homme toxique, séducteur qui est prêt à tout pour arriver à ses fins.
Et violeur aussi.
Violeur qui essaye de violer Jenny qui a genre 13 ans dans le premier épisode. Voilà.
Série pour adolescents.
Oui, c'est tout est normal. Donc voilà, Chuck Bass. Et puis en même temps, c'est horrible parce qu'à l'époque où on le regardait, on se disait waouh, trop beau gosse, machin et tout. J'aimerais trop le pécho. Alors que quand il pense, l'enfer sur terre.
On se fait à personne.
Voilà. Et alors la sentence, Anaïs, tu nous as proposé une sentence aux petits oignons.
Je propose qu'on le coule dans du béton et on laisse juste sa vieille tête de pervers sortir. Comme ça, il pourra plus jamais toucher personne.
Ah, je valide.
Ça défoule.
Alors, deuxième mascu toxique. Alors lui, il est quand même champion du monde, Frank Underwood dans House of Cards. Alors un genre de sociopathe meurtrier. C'est vrai qu'à un moment, il y a une journaliste qui risque de le balancer pour des trucs. Il la jette dans le métro, comme ça, elle se fait écraser par un métro, est normal. Puis après, il devient quand même président des États-Unis. Alors la sentence que vous avez proposée, tout simplement le bannissement de la société.
Ciao.
Pas mal.
Ça ressemble aussi à ce qui s'est passé pour l'acteur Kevin Spacey, qui a été banni de la série.
Mais c'est ça, c'est dingue comme quoi la réalité rejoint la fiction fait dans ce cas-là.
Ah oui, il le porte sur son visage.
Ouais,
j'ai envie de dire ça se voyait un petit peu. Il y avait des indices. Ensuite, sur Insta, on nous a dit Ted Mosby de How I Met Your Mother. Je cite. Incarnation du nice guy de ses morts. merci. Et la sentence d'une autre qui propose il doit donner toute sa thune à des assos d'autodéfense féministe.
Très bien.
J'adore cette sentence, franchement.
Très bien. Et il a intérêt à bien gagner sa vie.
Ça c'est clair. Alors ensuite, attention, je pense que lui, il est un peu genre champion du monde.
On aurait pu le mettre en 1, celui-là.
Oui, on aurait dû le mettre en 1.
Quand on a parlé de ce truc-là, je me suis dit, c'est lui, c'est obligé.
Tatane.
Alors, attention. Ross dans Friends.
Le nice guy.
Alors, je vous cite, j'ai eu deux tweets, franchement, que j'ai adoré. Alors, le premier. Ce type serait un incel s'il n'avait pas réussi à tremper son biscuit. Il se plaint constamment de ses relations avec les femmes, mais n'assume pas sa part de responsabilité dans les problèmes qu'il crée. Obsessionnel avec Rachel, il a du mal à accepter son évolution. L'arc de la pause est extrêmement insupportable à suivre. Il agit comme un ado prépubère et pas comme un adulte. Sentence, exil ou prison à vie. Et le deuxième. Alors, insupportable crétin trouillard et faible. Je réfléchis, mais je n'en trouve pas d'autre que je déteste autant que cet abruti. Ma sentence, être le voisin de palier d'une Rachel mariée et heureuse jusqu'à la fin de sa misérable existence.
Ouais. Ça me semble très bien comme sentence. On
Parfait.
Aime.
Fait.
On aime.
Incroyable. Et vous étiez d'accord sur
ah, mais grave. Mais c'est surtout la trahison, parce que quand tu regardes cette série, quand t'es jeune, tu te dis, mais elle est trop gentille, oh, rose, ouais. machin. Et quand tu la regardes, après, tu te dis, mais c'est ça qu'on nous met dans le crâne, quoi.
Méfiez-vous des nice guys.
Genre un nice guy avec qui tu romps et qui vient te harceler, en fait. Quoi, ouais, après, c'est normal. Quoi.
Bah, il me rappelle mon ex, en fait, hein, quand vous dites ça. Non, mais vraiment, c'est chaud, hein. C'est super c'est... chaud.
On aurait pu faire un sujet juste sur comment la séduction est présentée dans les séries.
Ah ouais.
Comment le harcèlement est romantisé.
C'est clair.
Non, mais rien que grave, ça, déjà, on aurait grave. Pu faire un épisode entier.
Et comme dans le film Love Actually, là, où le mec, il va avec ses pancartes essayer de reconquérir la meuf ouais. et tout le monde a dit récemment sur Internet, non, en fait, c'est pas romantique, on arrête tout de suite. Après, on a eu le Dr. House.
Ah ouais, rafale de gifle.
Voilà, méprisant, odieux, autant avec ses patients que ses collègues. Il a tendance à inspirer trop de médecins réels et hiérarchise les handicaps.
Et puis pareil, il méprise la femme dont il est amoureux dans la série, il lui fait la misère, quoi. C'est vraiment pire, lui. Gifle.
Voilà, sentence, interdiction d'exercer la médecine.
Parfait.
Voilà.
Je valide.
Après, il y a quelqu'un qui a dit 98% de tous les persos masculins jamais créés, bannissement sur une île, loin de toute civilisation et surtout loin de nous. Voilà. Alors, maintenant, à nous aussi de donner nos réponses. N'hésitez pas à aller voir le thread sur Twitter et sur Instagram pour en voir d'autres, parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup des réponses.
Oui.
Moi, perso, je dirais Mr. Big dans Sex and the City.
Grave.
Je le déteste.
Grave.
Il l'a fait galérer alors qu'il est éclaté au sous-sol et je comprends pas pour qui il s'est pris, en fait. Enfin, et ça me fait trop de la peine qu'elle doute d'elle à cause de ce vieux mec. Donc,
je propose qu'il soit forcé de porter des pantacours et des sandales jusqu'à la fin de sa vie.
Ah ouais, non mais clairement, ouais. Et d'habiter à la campagne loin. Parce que c'est trop le mec, genre, ouais, le citadin, non, et tout, ouais. Casse-toi.
Ta limousine te servira plus à rien au fin fond du Nevada.
C'est ça.
Bah moi j'ai voté, mais on est un peu d'accord aussi avec Marga, on sait toutes les deux, Tom Scavo, quoi. Dans Desperate Housewives, ce mec, et c'est juste le cliché de l'homme victime devant l'éternel, qui ne branle rien, qui dévalorise constamment sa femme, alors que c'est elle qui gère tout, genre si elle s'endort, la maison s'écroule, quoi.
Clairement.
Donc je vote pour lui, pour des heures de travaux d'intérêt général dans des garderies pour enfants, mais genre 80 heures par semaine, et ce, à perpétuité.
Ouais, moi je suis d'accord.
Ça lui fera les pieds.
Moi, je garde toujours sa tête quand sa femme lui dit... Quand il quitte la maison et il revient la voir, il essaie de la reconquérir et elle lui dit « Non mais Tom, tu sais quand t'es parti, en fait ça m'a soulagée. » Et là, il a une tête de victime et moi je suis là « Ah, chef !» Voilà.
Mais grave.
Mais combien de fois tu te retrouves avec un enfant de plus au lieu d'être avec un autre adulte ?
Mais grave, c'est ça quoi.
Voilà, donc on n'est pas une garderie.
Merci,
ça suffit. En tout cas, je trouve que ça fait du bien et qu'on devrait faire ça plus souvent. le tribunal misandre, je pense qu'on peut faire ça à chaque fois.
Mais oui, on y avait pensé au plus au début, à avoir une minute misandre. Mais en fait, le self-care tourne souvent misandre parce que et le self-care fait du bien.
Ça fait du
le
bien.
Self-care,
et je pense que sur tous les thèmes, on pourra trouver des mecs hyper problématiques. Voilà.
Rendez-vous aux prochains épisodes.
Le tribunal est là.
Carrément.
Bien, mais c'est la fin de cet épisode spécial Warrior dans les séries. On espère que ça t'a inspiré. On a plein de bonnes séries à mater pendant les vacances ou pendant un potentiel reconfinement. Donc, on remercie nos Warriors. Merci à Marie et Marie, Juliette, Sarah, Pauline et Pauline. Merci beaucoup de vous être regroupés par prénom et merci d'avoir partagé avec nous vos références, vos témoignages aussi parfois sensibles et très intimes. Et bravo pour vos victoires, votre créativité, vos talents, votre courage, votre culture, tout, quoi. Bravo. Merci également à notre label Popcast ainsi qu'à Radio Grenouille qui nous accueille dans son studio. Donc, pour connaître nos prochains appels à témoignages, tu peux nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, @yespodcast. Tu peux aussi nous écouter et partager nos épisodes depuis iTunes, Spotify, Podcast Addict et toute application de podcast. Et si le cœur t'en dit, n'hésite pas à nous donner 5 étoiles sur iTunes, ça nous rend plus visible. On se retrouve très bientôt, dans 2 semaines, pour un nouvel épisode bonus. Et d'ici là, n'oublie pas, on te voit, on te sait, on te soutient. Ton existence a de la valeur, ton point de vue est important, ton vécu est légitime. Bref, meuf, t'es noire.
Yeah!